Alors, il y a quelques temps, mais c'est pas si loin que ça, le 22 août 2009. Alors, on pouvait lire ça dans les nouvelles, j'étais tombé là-dessus. C'était le feuilleton de l'été, le jackpot italien de 146,9 millions d'euros, record d'Europe, a enfin été remporté samedi soir. Cette cagnotte est la deuxième plus importante au monde, derrière la somme de 157,7 millions d'euros gagnée au Mega Million américain en mars 2007. Alors, c'est impressionnant quand on lit ça. Bon, on sait qu'il y a des gens qui jouent au loto et qui gagnent et tout, mais alors là, on se dit mince, effectivement, c'est assez impressionnant. Et forcément, des fois, ça fait réfléchir. On se dit, bah mince, dis donc, une somme pareille. Alors, j'ai fait le calcul pour m'amuser, enfin, où j'ai regardé un Français moyen, on va dire, bon, après, ça dépend, bien sûr, mais en moyenne, à peu près, un Français moyen sur une vie entière, s'il travaille toute sa vie, à peu près une cinquantaine d'années, un truc comme ça fait à peu près environ 1 million d'euros. On gagne à peu près ça sur une vie entière, quoi, si on compte tout, à peu près. Enfin, vous pouvez faire le calcul vous-même, ça varie, mais bon, ça reste dans ces eaux-là. Alors, quand on voit un truc, 150 millions, puis 150 fois ce qu'on gagne dans une vie, ça fait un peu drôle. Alors, forcément, je crois qu'on a tous joué à ce jeu-là. Qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là? Même si je ne cautionne pas du tout ça, bien évidemment. L'idée, c'est de se dire par rapport à une somme aussi délirante, quelqu'un qui gagne ça, qu'est-ce qu'on ferait? On a tous, je pense, joué à ce jeu-là. Et franchement, qu'est-ce que ça pourrait faire? Enfin, à quoi on pourrait s'imaginer? Parce que si on veut vraiment être honnête et souhaiter être dur, hein, surtout d'être honnête avec nous-mêmes, comment on réagirait? Quelles seraient nos réactions, nos choix, notre nouvelle vie, nos valeurs? Est-ce que nos valeurs changeraient? Peut-être, peut-être pas. Peut-être dans le temps, petit à petit, on ne sait pas. Enfin, je laisse à chacun la réflexion. La Bible nous dit en Matthieu 6, verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Alors attention, pareil, hein, je ne veux pas du tout prendre le début de ce verset comme il a été pris pendant des siècles en France par certains chrétiens. L'idée, c'est pas d'être pauvre, c'est pas du tout ça l'idée du message. Et si on lit bien le verset, surtout le dernier verset, c'est surtout ça qui est important, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, quel que soit ce qu'on gagne, si on gagne peu ou beaucoup. On a vu très bien que Jésus n'avait rien contre les riches, il leur disait simplement que c'était un peu plus dur pour certains d'entre eux. Mais bon. Alors, nous avons l'histoire du jeune homme riche, par exemple, l'histoire du jeune homme riche, où Jésus ne le condamne pas. Jésus lui dit pas que c'est pas bien ou quoi. Enfin, il le condamne pas. C'est le jeune homme riche qui lui-même part tout triste, parce que bah, son cœur était. On sentait bien que son cœur était pas là où il faudrait, quoi. Alors prenons un exemple plus concret, moi j'aime bien ça, l'exemple de Bill Gates, je pense que vous connaissez tous, l'homme le plus riche du monde, hein. Enfin je sais pas s'il l'est encore, mais bon, en tout cas il l'a été pendant plusieurs années. Il a créé la fondation Bill et Melinda Gates, et par exemple, si on peut voir, vous connaissez un peu l'Organisation mondiale de la santé, c'est important, on va dire. Les dons annuels de la fondation sont supérieurs à l'OMS, donc bon, c'est quand même des causes-conséquences. Et en 2006, Bill Gates, par exemple, a consacré 95% de sa fortune dans la fondation. C'est une fondation, par exemple, une fondation a dépensé 9,26 milliards pour vacciner 55 millions d'enfants, par exemple. Donc c'est pas, je dirais, c'est plutôt bien, on peut pas trop critiquer ça, c'est plutôt une bonne chose. Et il a consacré 95% de sa fortune. Alors on peut dire, bah oui, mais forcément, mais il lui en reste plein. Bah oui, c'est vrai. Mais il y en a plein qui ont d'argent et qui font rien du tout, hein. Donc c'est pas du tout ça. Ce qui est, comme nous dit la Bible, c'est le cœur qui compte, hein. C'est le cœur. Alors, je pense que tout le monde entend parler du drôle de Noël de Scrooge, qui va passer là au cinéma. Moi, je connaissais pas très bien. Ma mère m'a dit, si, c'est très connu, surtout dans le monde anglo-saxon. Il faudrait que j'aille voir ça. Et c'est quoi? C'est un vieillard solitaire, insensible, connu comme l'un des plus riches et les plus avares de Londres, qui vit dans l'obsession de ses livres de contes. Et puis bon, après, il est rattrapé par ses souvenirs et par tous les Noëls où il a été avare. Et on le voit changer de vie, je pense, à la fin, j'imagine. C'est un film de Disney, donc je pense que ça se finit bien. Puis de toute façon, ça n'a rien à voir, c'est pas le film de Disney, mais bon, c'est une histoire. Mais enfin, je vous laisse la voir, j'irai la voir aussi. Alors, c'est pas parce qu'on gagne évidemment de l'argent qu'on peut facilement donner, je viens de le dire, ça dépend du cœur, mais il est aussi à noter que plus on est béni, plus on a de responsabilités, plus Dieu nous donne de choses, plus il nous demande effectivement de prendre soin des autres et nos responsabilités augmentent en conséquence. La Bible est très claire à ce sujet et même si on a peu, Dieu nous demande d'être fidèle pour autant. La Bible nous dit « Vous avez été fidèles dans de petites choses, alors je vous établirai dans des grandes. » C'est un verset à se rappeler. C'est Matthieu 25, verset 21. Mais Dieu nous teste tout d'abord dans les petites choses. Et si nous nous montrons fidèles, il peut nous établir dans des plus grandes. Et sinon, on repasse le test. Si nous montrons de la faiblesse et de l'infidélité dans les choses très simples, Dieu pourra difficilement nous donner des choses plus grandes. Alors on peut les prendre de force, c'est toujours possible. Attention, s'il n'y a pas des règles, on peut toujours forcer Dieu, entre guillemets, et faire ce qu'on veut quand même. Bien sûr, on est libre, mais on n'est pas dans la bénédiction de Dieu. Après, on le sent bien plusieurs années ou même assez rapidement des fois. On voit bien qu'on n'était pas dans la volonté de Dieu. Comme le dit la Bible, si vous avez couru avec les fantassins et qu'ils vous ont épuisé, comment pourriez-vous courir avec les chevaux? Jérémie 12, verset 5. C'est étonnant de voir combien de gens s'imaginent être capables d'assumer des lourdes responsabilités quand ils sont incapables de faire face à de plus petites. On peut utiliser la grâce que l'on a et on en demande. On ne peut pas, utiliser la grâce que l'on a et on en demande quand même davantage. C'est souvent le cas. Et oubliant les mots de Dieu, si vous êtes fidèles dans les petites choses, je vous établirai dans les plus grandes. Je rappelle ce verset, c'est conditionnel. Il y a des versets comme ça dans la Bible qui sont conditionnels. À la recollection 2009, pour ceux qui étaient, Dan Snead de Foursquare nous a rappelé que Dieu sera avec nous quel que soit notre choix. Attention, ce n'est pas un jugement non plus. Quoi qu'on fasse, Dieu est avec nous. Maintenant, on n'a pas la même vie après. Si on arrive à suivre vraiment les voies de Dieu, ou si à chaque fois on s'en écarte pour faire ce qu'on veut, on n'a pas les mêmes bénédictions et la même vie. Donc simplement une réflexion que je veux nous laisser. Premièrement, quelle est vraiment notre position de cœur face à l'argent? On gagne peu ou beaucoup. Et est-ce que l'on gère correctement ce que l'on a déjà? Et Dieu aura l'occasion de nous en donner des plus grandes. Parce que c'est son désir. Amen.